Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35, on est là jusqu'à minuit dans l'after avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy. Déclaration de Christophe Galtier avant qu'on parle de Lyon, il y a quelques instants. Il y aura des décisions à prendre pour rendre l'équipe beaucoup plus costaud, dit-il. Alors, le mercato se termine dans deux jours. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent peut-être s'activer pour recruter? Je ne sais pas, mais enfin, voilà. Voilà ce qu'a dit Galtier il y a quelques secondes.
Tu peux me redire la phrase là? Il faudra, pour rendre l'équipe plus costaud.
Oui. Il y aura des décisions à prendre pour rendre l'équipe beaucoup plus costaud.
Toi, cette phrase là, ça te conduit à penser qu'il va y avoir un recrutement?
Bah, on en parle de mercato.
Bah ouais, je sais pas, moi j'ai pas forcément vu comme
toi,
ça.
Toi, tu te dis ça, changement de système.
Moi, je me dis que contre le Bayern, un des trois peut être sur le banc.
Ouais, mais là. De toute façon, s'il veut vraiment passer, tu vas réfléchir, mais après tu vas te rendre compte que non.
S'il veut vraiment passer, à un moment avec Campos, ils font une réunion les yeux dans les yeux, là, et dit qu'est-ce qu'on fait? On perd, on est en vacances le 15 mars, comme tous les autres, ou on tente le truc, on dit Léo, va sur le banc, désolé, tu rentres en cours de match, et il monte une équipe autrement. Je vois que ça. Et encore, je sais même pas s'il a les qualités.
Voilà, je pense qu'il parle de la défense centrale, non, quand il parle de ça ce soir.
Peut-être.
Ou alors
il peut se dire on va faire une défense à 3.
Ils vont accélérer pour faire venir Skriniar dès maintenant.
Et ça c'est dans les tuyaux.
Et le gars, dès maintenant, Skriniar, à peine arrivé, tu le mets titulaire avec Marquinhos, c'est-à-dire que tu vas dire à Ramos, va sur le banc. C'est quand même une gestion très difficile. Donc il arrive le 31, donc demain, après-demain. Donc il joue le week-end prochain. Il va pas jouer dès mercredi. Il joue le week-end prochain. Et dans 14 jours, il doit être titulaire en Ligue des Champions.
Montpellier, je crois.
Ok, très bien.
Cette semaine.
Sachant qu'en plus, il est pas dingo depuis le début de la saison, en plus, Skriniar. Hein, il est pas non plus. Faudra pas s'attendre d'avoir le sauveur de l'humanité.
Je pense que c'est un leurre, Daniel, de penser que c'est Pierre-Paul ou Jacques qui vont. C'est une remise en cause générale. Et c'est un état d'esprit collectif à trouver. C'est ça.
Là, il n'y a plus d'équipe.
Encore une fois, quand tu compares les individualités de part et d'autre, il n'y a pas de débat, quoi.
Parlons de Lyon, les gars. On y va. Lyon qui gagne à Ajaccio. Bon, il y a eu un peu des problèmes en fin de match.
Mais c'est pas un peu des problèmes.
Oui, mais enfin, le problème, c'est que c'est des débilités.
C'est baston, la Cazette qui prend un briquet sur la gueule. Tu vois, quand même, quoi.
Non, mais si Vercoutre, il y a eu échange d'insultes des deux côtés.
Ah oui.
Tu vois, tu peux pas tout mettre là sur les Corses en l'occurrence.
Et qui t'a dit que je mettais tout sur les Corses? En revanche, le briquet sur la gueule de la Cazette, il est pas tombé de la lune, tu vois.
Bon. Évidemment.
Après que les insultes, que c'est échauffé Vercoutre, on sait que c'est pas la première fois qu'il envoie et qu'il provoque. Mais derrière, le bordel partout, non quoi.
Bon, Lyon qui gagne, en soi, c'est quand même un petit événement. Hein. Je ne veux pas non plus passer sous silence, parce qu'il y a évidemment les déclats de blanc et de l'as après le match. Mais bon, Lyon a quand même gagné. Ce qui devient presque anachronique ces temps.
Ajaccio, quel exploit.
Oui, mais enfin bon.
Quel exploit.
Non, mais c'est vrai qu'à la limite, quand le match a démarré, tu vois la première demi-heure, tu te dis, Lyon, il n'y a pas de raison qu'il gagne ce match. Quoi. Jusqu'au but.
C'est Ajaccio qui a les occasions.
Jusqu'au but du pote de mon fils, là, qui sera demain pour jouer à FIFA avec lui, le petit Le Penant. Lyon est dominé, clairement. Ajaccio se crée pas mal d'occasions. Ajaccio joue dans le camp de Lyon. Il n'y a pas grand-chose dans le jeu des Lyonnais jusqu'à ce but-là. Et dans la foulée, on peut pas dire qu'Ajaccio se fait marcher dessus dans ce match, quoi. Donc il n'y a pas réellement à envisager des lendemains qui chantent à l'OL.
Vanter Ajaccio aussi, parce que faire ça, lui, il a vraiment un matériel hyper limité, Pantaloni. C'est très très cohérent ce qu'ils font. Après, ça suffira sans doute pas malheureusement pour eux, mais c'est lui comme entraîneur est quand même un homme de valeur.
Lyon, ils vont à Ajaccio, ils n'arrivent même pas à avoir la possession. Ils ont je sais pas quoi, peut-être deux fois moins, c'est un peu exagéré d'occasion par rapport à Ajaccio. C'est quand même quoi. Ils gagnent pas contre, si on pourrait presque dire contre le cours du jeu quand même. Hein. En donc tout cas, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, mais je vois pas en quoi il y a pas de quoi s'emballer.
Ils sont à 10 points ou 15, enfin 15 points, je crois, de la troisième place.
Ils sont à 20 points du PSG.
Ah non, mais là, c'est fin de saison.
Ils peuvent plus rien espérer. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pendant que l'OL livre ses prestations-là et gagne un match de temps en temps? T'as Olas qui est complètement cuitasse, qui continue de balancer des énormités. Alors, il va donner une interview au Monde. Voilà.
Parlé à Florent Germain, là.
Je vais aller faire une interview au Monde, là. C'est fantastique, là, vraiment, là, le choix du média.
Il a dû être contacté par le Monde. C'est pas lui qui a appelé le Monde en disant salut les gars, je suis Jean-Michel.
Alors,
Olas.
Énormité, le modèle. Bon. Alors, déjà, il n'y a pas de crise. À l'OL. Donc, l'OL est 9e. Il y a Clermont qui est devant. Mais ils sont pas en crise. Ok, très bien. Lyon, le modèle est construit pour faire face aux aléas sportifs. Donc le sportif, c'est pas important parce que le modèle va bien. Ok, super. Et tout est de la faute de Juninho.
Il a mis une sacoche
monumentale. Comme quoi, tout était de la faute. Non, mais franchement, c'est...
Alors, écoutez Jean-Michel Aulas, après avoir parlé Mercato.
La réforme des retraites.
Écoutez Jean-Michel Aulas,
la réforme des retraites.
Qui parle justement de Juninho une nouvelle fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, Juninho, cette semaine, dans Rotten sans flamme, vous savez qu'il intervient régulièrement et qu'il est toujours très bon d'ailleurs, il a parlé de Cherki en disant Cherki, enfin, il a expliqué ce qu'il pensait de Cherki, l'éventualité PSG et tout. Et apparemment, ça n'a pas plu à Jean-Michel Aulas, on écoute.
Que l'on puisse dire à un moment ou à un autre qu'on a fait des erreurs, bah oui. Donc aujourd'hui, on paye, c'est vrai, un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Mais moi, je ne veux pas les assumer parce que j'avais donné les clés totalement. Même si aujourd'hui, il s'en souvient pas, c'est la vérité. Mais on ne réécrit pas l'histoire. Moi, j'ai suffisamment de bouteilles, d'expérience pour pouvoir dire les choses les yeux dans les yeux. Juninho a été incontestablement l'un de nos meilleurs joueurs, mais il n'a pas fait le travail sur le plan de l'organisation et de la direction sportive.
Bon, voilà le petit coup de rappel de Juninho. Écoutez maintenant ce qu'il dit sur Cherki, parce que là, il y a un petit message pour le PSG.
J'ai eu longuement Nasser hier soir au bout du fil, puisqu'il a eu la délicatesse de m'appeler entre présidents pour me dire « Mais est-ce que vous êtes en négociation ou est-ce que vous voulez pas que Ryan s'en aille ?» Je lui ai dit « Non, Nasser, Ryan a beaucoup peiné pour arriver au niveau où il est. Il a un coach qui lui fait confiance, titulaire ce soir. Donc, c'est fini. » Il m'a dit « Bah, il y aura pas de nouvelle offre du Paris Saint-Germain. » Et je veux même pas dire quel était le niveau de l'offre de Ryan. Elle était pratiquement insultante compte tenu de la valeur de Ryan. »
Voilà. Une offre quasi insultante de la part de Paris pour Cherki.
Je pense que Ryan Cherki ferait quand on voit le PSG ce soir.
Pas, en quoi le PSG peut s'intéresser, enfin, à trouver bien de s'intéresser à ce joueur? Qu'est-ce qu'il apporterait dans cette équipe? Et puis en plus, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, normalement, à la place de Cherki, c'est un des postes des trois de devant. Mais les trois de devant, ils bougent jamais. Donc il va venir pourquoi? Il est titulaire à l'OL. Il est enfin en train de gagner du temps de jeu. Et je l'espère pour lui de progresser, de se visser un peu la tête, parce qu'il est encore un peu...
D'ailleurs, si on avait l'esprit tordu, on rappellerait que PSG a donné... Enfin non, il est prêté à Ekitike, donc ils le paieront l'année prochaine. Mais
Ils vont le payer, les 35 millions, et le salaire astronomique.
Et qui a été remplacé par Balogun, et voilà le résultat ce soir.
Et lui, Cherki, venir sur le banc alors qu'à Lyon, il commence à jouer. Blanc essaye petit à petit de lui faire comprendre certaines choses. Il essaye de jouer de façon un peu plus intelligente. Et il va quitter le club pour aller au PSG où il jouera pas.
Bon, en l'occurrence, on a compris là qu'il irait pas.
Excuse-moi, mais je pense que dès la semaine dernière, je t'ai dit qu'il irait pas.
Oui, enfin là, tu t'as compris que...
Oui, mais je te l'ai dit. Attends, je vais te dire précisément quand. Mercredi soir dernier, je t'ai dit qu'il viendra pas.
Très bien, c'était ton ressenti de mercredi soir dernier.
Non, c'est une information, c'était pas un ressenti.
Oui, mais il te dit qu'ils se sont parlé hier soir pour enterrer le fait qu'il n'y aille pas. Toi, t'as l'information avant que les mecs prennent la décision, très fort.
Non, mais alors, je vais te l'expliquer. Ils ont pu reparler hier soir, sauf que, comme je savais qu'en aucun cas le PSG ne donnerait l'argent que Lyon avait envie de recevoir, ils ne pouvaient pas y aller. Bon, je vois pas en quoi, de mercredi à dimanche, la situation de l'Oseille aurait pu évoluer, puisque le PSG n'avait pas les moyens. Il y avait une seule solution. Tu sais ce que c'était, la seule solution?
Le prêt payeur.
Voilà. Le prêt avec option d'achat. C'était la seule issue possible. Si le PSG le voulait vraiment, c'était un peu ce qu'a fait Chelsea avec Malo Gusto. C'est-à-dire, OK, les 25 millions que vous voulez, on vous les donne, mais au mois de juin. Mais là, maintenant, ils pouvaient pas. Et encore, avec le fair play financier, Paris pouvait pas vraiment, de toute façon, mettre cette oseille-là.
Alors, Balogusto, justement, j'y arrive.
C'était la seule issue possible.
Donc, vous avez vu, il a fait les photos avec le maillot de Chelsea. C'est toujours un peu bizarre, hein. Tu prends les photos pour ton nouveau club, mais en fait, t'y vas pas. C'est-à-dire que tu restes à Lyon quand même. Donc, on va dire que maintenant, il a deux maillots, Balogusto. Alors, Blanc-Lui, il est saoulé par le mercato d'hiver. Il dit, moi, je veux pas de mercato d'hiver. Ouais, il est saoulé. Il faut dire qu'il y a pas mal de départs, enfin, de mouvements à Lyon. Donc, on a appris aujourd'hui l'officialisation de TT, qui quitte Lyon pour aller à Leicester. Voilà. Lyon qui est aussi en train de faire venir vraisemblablement un jeune joueur de Botafogo. Donc ça, c'est connexion Textor. La Textor, c'est plus facile pour lui que de convaincre les jeunes de Flamengo. C'est son club. Donc Botafogo.
Au club, ouais.
Oui, là, je dis, c'est parce que tu sais, le jeune de Flamengo, Textor voulait le convaincre et finalement il a dit non. Donc voilà le mercato lyonnais qu'on pouvait vous donner ce soir. Dans un instant, on revient pour parler des autres matchs du jour. On voulait parler... Ah ben non, on revient pas puisqu'on reste là en fait. On voulait parler de Lille. Les gars, on va le faire avec Alexandre qui est là, supporter du LOSC. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Tout à l'heure, c'était un des trois points, je sais plus, de Daniel ou de Stéphane, je sais plus. Enfin, l'un des deux voulait parler de Lille, qui donc effectivement a du mal à conclure ses occasions, Alex, et qui a perdu aujourd'hui.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Là, je pense que une nouvelle fois aujourd'hui, c'est un match à l'image de notre saison, c'est-à-dire une équipe de Lille qui se procure énormément d'occasions, notamment en première période. Et qui finalement, comme toujours, j'ai presque envie de dire, se saborde un peu, frappe trop mollement ou ne cadre pas ses frappes. Et c'est un scénario qui se répète, malheureusement. On se rappelait du match aller déjà, où Lille avait été très très dominateur et puis finalement avait donné deux pénaltys et avait fini par perdre le match. Et forcément, en tant que supporter, on commence à être frustré parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est assez fréquent avec le LOSC. Et on essaie de chercher un peu les raisons. Et à l'heure actuelle, ce qui ressort de mon côté, même si l'équipe joue très bien et que l'équipe est plaisante à voir jouer, j'ai l'impression qu'en fait il y a un défaut au niveau de la psychologie de l'équipe, de la mentalité au moment de terminer les actions. En tant que supporter, on a connu Bourak, hein, il y a deux ans. On avait des joueurs qui ouais. étaient tueurs, qui avaient du feu dans les yeux et qui avaient presque cette envie de transpercer le but et je la retrouve pas, cette année. Et voilà, on a des joueurs un peu tendres, je trouve. Peut-être que c'est lié au nombre d'occasions qu'on se procure.
C'est une question de détermination individuelle, quoi. C'est vrai que Bourak, lui, bon, il dégageait une énergie, parfois même trop.
Oui,
tu retrouves pas ça chez Bayo ou David cette année, par exemple.
C'est ça. C'est des joueurs de qualité, je pense, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans la détermination, comme si ils étaient un peu en détente. Ils se disent sans doute, et ils ont raison, que le LOSC va se procurer plein d'occasions et que finalement, s'ils en loupent une, bah, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Sauf qu'il y en a d'autres.
Ah ben, souvent, il y en a d'autres en plus, hein.
Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup, sauf qu'elles rentrent jamais.
Bah ouais.
Et à la fin, on se retrouve avec des résultats qui correspondent pas forcément aux prestations et ça commence à s'accumuler, malheureusement.
Vous êtes d'accord avec Alexandre?
Ça va même aller au-delà. C'est que la punition va être terrible. Hein. C'est que Lille, il reste 18 matchs, donc je veux pas
ils être sentencieux. Ils sont dans le coup.
Je veux pas être sentencieux. Mais le problème, c'est que le scénario, il se répète trop.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est trop la même chose. La première mi-temps aujourd'hui.
Mais souviens-toi, Nice
très tôt dans la saison. C'est beaucoup mieux. Nice, c'est beaucoup mieux qu'avant. On voit que Digard, il tient bien mieux l'équipe. Ça ressemble vraiment à quelque chose, mais ils doivent pas gagner le match.
Ah bah non.
Doivent pas gagner le match. Lille en première période, ils ont permis à Smichel de faire un match de dingue. Mmh. Ils font briller les gardiens, les gars.
Peut-être son meilleur match avec Nice.
Ah ouais.
Mais très tôt dans la saison, Olivier Létang, je me souviens, avait alerté. Il y avait un match comme ça où il avait piqué vraiment un coup de gueule. Il avait fait match nul, je crois. Et donc il sentait sans doute ça dans son club.
Maintenant, c'était pas le match contre Clermont.
Je me souviens plus. Franchement, je l'ai vu. Puis il y a des joueurs, par exemple. Ouéa, qui a quand même des grosses qualités, mais qui est d'une inefficacité confondante, quoi.
Mmh. Là, comme ça, sur le papier, ils sont qu'à 4 points de Monaco, tu vois.
Ouais, mais ils sont dans le coup. Ouais.
Alexandre, un truc à rajouter.
Tellement de regrets.
Je pense que ce match-là, c'était peut-être le match à Lorient, parce que le match face à Clermont, il y avait une victoire de Lille 2-0. Mais,
oui, le match que Lorient gagne, d'ailleurs, quand ils sont à 10.
Voilà, tout à fait.
Exactement, avec le deuxième but du petit Lobris. Absolument. Oui. T'as raison.
Et sinon, ce que je pourrais rajouter, c'est que on aurait pu s'en sortir avec 0-0. Ça aurait été un moindre mal, sauf qu'on a trouvé le moyen aussi de faire une énorme erreur. Et en fait, cette inefficacité offensive, elle peut exister aussi en défense. Quand on fait le bilan pour l'instant de notre saison, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'occasions manquées, et il y a encore trop de tendresse dans les deux surfaces et malheureusement ça nous coûte très cher, comme tu le disais Daniel, les places européennes s'éloignent alors que dans les prestations on devrait en être beaucoup plus proche, malheureusement.
Merci Alexandre.
Merci à vous.
Bonne soirée et rappelle-nous quand tu veux pour parler de Lille. Un mot de Nice avec Hugo qui est supporter niçois. Salut Hugo.
Oui, bonjour.
Bon, toi, à l'inverse, t'estimes que Nice s'en sort bien aujourd'hui ?
Ah, je pense qu'on s'en sort très bien même. je suis content parce que on arrive à gagner. Et ça, avant avec Favre, c'était pas toujours le cas. Après, on a quand même beaucoup de chance. Franchement, les attaquants lillois ont fait briller un Schmeichel fantôme avant. Donc non, on est très content et surtout que. Bon, on n'a pas la même semaine que le PSG, mais là, on a un déplacement à Lens et un déplacement à Marseille.
Ah oui.
Donc, qui vont être très compliqués. Et voilà, si on veut essayer d'accrocher la course à l'Europe, il faut gagner des matchs comme ça. Et bon, on a beaucoup de chance. Et aussi, juste.
Bon, la course à l'Europe, tu pars de loin quand même pour Nice. Hein. c'est quand même 10 points de retard sur Monaco. Hein. 9 ouais, sur Rennes. Hein.
On y croit toujours et
Tu verras, c'est gratos. Hein.
on espère. Et juste un petit mot sur notre nouvelle pépite, Boanani, qui a vraiment fait un match impressionnant pour ses 18 ans et qui va remplacer Pépé pour un long moment, je pense, qui s'est blessé à l'entraînement.
Pépé, il prend 2 mois, non, un truc comme ça.
Pépé, c'est dommage parce qu'il était bien. Hein.
Il revenait bien, oui, c'est vrai.
Ouais, il revenait bien, mais bon, écoutez, on a ce petit remplaçant qui est très bon. Et là, il y a Mofi qui va certainement arriver aussi.
Alors, sinon, Delors à Nantes, c'est quasi fait. Hein. Visite médicale faite, il est à Nantes, donc il n'y a plus que l'officialisation, quoi. C'est quasi bouclé.
Peut-être qu'ils pourront attaquer un peu plus Nantes, alors, parce que là,
Zéro tir cadré dans le match.
Clermont-Nantes,
zéro tir cadré.
Dans
tout le match. Pour les deux équipes.
Non, je sais pas, ils veulent plus jouer au foot, là. Terminé, ils veulent rien faire.
Hugo, un mot sur Digard, quand même, t'es content ?
Ah, très content, très très fier. Il arrive à faire passer un message aux joueurs. Franchement, comparé à la première moitié de saison avec Favre, où on sentait vraiment une équipe, mais fantôme, ça courait pas, c'était horrible. Et là, avec Digard, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais...
Il y a quand même un truc là, sur les adjoints, je ne sais pas si c'est... Parce que là, je ne me trompe pas si je dis que Digard, pour l'instant, il n'y a pas eu d'officialisation définitive du fait qu'il reste en poste.
Mais je pense que les joueurs décident, comme ils ont décidé dans ton club. Hein.
Oui, mais alors, figure-toi qu'à Strasbourg, il s'est passé un truc très étonnant après le match. Le scorner arrive en conférence de presse. Et là, il dit, moi, vous savez, je suis là, je suis au jour le jour, parce que je ne sais pas si je vais rester. Donc, tiens, attends, il y a une semaine.
Rapport hebdomadaire au président et on voit.
Il y a une semaine, on nous dit que c'est lui. Et puis maintenant, en fait, on nous dit, en gros, c'est au match, quoi, en fait.
Et parce qu'en fait, les.
Et t'as l'impression que Digard, on attend quand même de savoir aussi.
Parce que la Mouchi n'a pas été loin de Strasbourg. Oui. Mais que les joueurs ont tenu à ce que Lancornet reste. Donc, si les joueurs mettent la pression parce qu'ils veulent continuer avec l'adjoint, comme ils le font à Nice. Et comme ils l'ont également fait à Reims, où là, c'est pour le coup totalement entériné.
Il y a Montpellier aussi qui est dans ce cas-là, avec Pito.
Voilà.
Bon. Toi, tu veux garder Digard, Hugo ? Tu veux pas d'un gars qui vienne de l'extérieur ?
Non. Pour l'instant, vu que ça se passe bien, non, je vois pas de remplaçant. Non, je vois pas de remplaçant.
Merci, Hugo.
Mais de rien.
Bonne soirée. C'est peut-être une nouvelle tendance, le coach au match. Tu vois ? Voilà, c'est bon. Tous les lundis matin, rendez-vous à 10h.
Ils savent que leur durée de vie est de plus en plus courte, mais
c'est flippant
pauvres,
quand même.
Les pauvres.
Bon, on verra pour Digard ce que ça donne. En tout cas, voilà, Nice, effectivement, va mieux avec Digard qu'avec Favre, ça c'est incontestable. Et puis avec finalement très peu de changements dans l'équipe. Oui, alors Clermont-Nantes, du coup, il n'y a rien à en dire. On peut passer à autre chose.
On peut parler de Brest qui a gagné avec Eric Roy.
Mais... En tout cas, le déclic psychologique des nouveaux entraîneurs, ça marche.
Non, mais Eric Roy, on le connaît bien dans l'after.
Celui d'Angers, il n'a pas eu vraiment de déclic psychologique.
Non, pas trop. On le connaît bien dans l'after, Eric. On a été les premiers à dire, attends, il n'a pas entraîné depuis 10 ans, c'est un choix étonnant, parce que le gars, tu ne sais pas trop s'il voulait être entraîneur, directeur sportif.
Ouais, enfin, attention, il a beaucoup progressé au poker.
Ah. Durant ces années-là. C'est sans doute pas ça qu'il a fait gagner là, tu vois. Donc,
on ne sait jamais, le poker mène à tout. Et Eric, il s'était bien.
Par contre, il a deux choses.
Comment ça vient tenir les cartes,
il a une personnalité forte. C'est quelqu'un d'intelligent. Donc, je pense qu'il y a bien dans l'analyse situationnelle de Brest, il est venu quand même avec le staff qui avait fait l'intérim, justement. Donc, faut quand même être assez, assez fin psychologiquement pour se fondre dans dans ce monde-là. Et c'est ce qu'il a sans doute su faire.
Bon, et il enfonce encore plus Angers
après,
en l'occurrence.
Angers, on l'avait dit, hein, après le match.
Angers, c'est
la
pas un problème d'entraîneur. C'est le club, il est en perdition totale. C'est fini. Ils ont 8 points.
Oui, c'est complètement étonnant.
Non, mais il y a des
demande dans quelle mesure
Saïd
Chaban est vraiment encore intéressé par son club, en fait. Bon, là, il a vendu, donc il attend de vendre Boufal, sans doute.
Il a des problèmes perso.
Il se déplace peu sur les déplacements, par exemple.
Allez, il va prendre un peu d'oseille avec les ventes, là, et puis voilà.
Bon, voilà. Vous voulez dire un mot d'Auxerre-Montpellier ou.
On peut passer.
On peut passer, très bien. Strasbourg-Toulouse, on passe aussi.
Ça, c'est pour toi. Un petit mot, Gilbert, inquiétude.
Déception, voilà.
Non, déception ou inquiétude?
Bah, pas encore inquiétude, mais
Gamero
qui prend un rouge, je suis très étonné parce que ça lui ressemble pas du tout.
Et là, il a surtout pété un plomb. Vous allez le perdre pour pas mal de temps.
Oui, non, mais il va prendre
15 points. Vous faites quoi? Tu vas faire la baston avec Brest.
Ah, de toute façon, c'est sûr maintenant. Hein, il y a une petite série
parce
d'équipes.
Je pense que tu
n'iras
plus chercher Montpellier, 5 points.
Attention, Montpellier, c'est fragile quand même.
Eh ben là, ils ont redressé un peu la barre, quand même.
À mon avis, tu vas la jouer avec Brest, hein. Attention.
Montpellier, du 14e au 20e, au 19e, je pense qu'Angers, c'est mort pour eux. Auxerre, ça semble aussi.
Franchement, ça va être bouillant pour vous, hein, Gilbert. Moi, je serais inquiet à ta place. Hein.
Bon, écoute, je sais pas. On va voir si la nouvelle méthode du match, du coach au match fonctionne. On va tester. Allez, quelques infos mercato pour conclure. Il y en a pas mal. Bah, Angers, tiens, ils aimeraient se faire prêter Reine Adélaïde. Voilà, qui avait été recalé la visite médicale.
Qui a déjà passé à Angers, qui a été prêté à Angers déjà dans le passé.
Exactement.
Et c'est là où on l'a vu et où il s'est fait repérer surtout.
Exactement. Et puis des infos marseillaises. Je veux dire que Pape Gay aujourd'hui est prêté sans option d'achat au FC Séville.
Ça m'a surpris par contre. Je pensais que dans la rotation marseillaise, il était utile, Pape Gay.
Et puis tu parles de Marseille, est-ce qu'ils ont retrouvé qui avait débranché la barre hier là, qui avait débranché le courant?
Non, je sais pas, mais en tout cas, il était énervé.
Non, c'est vrai que le VAR, ils sont ici à Paris, je suis bête.
Bah, c'est le football sans VAR, ça, tu vois, Daniel. Le football sans VAR avec des.
Ah, bah là, c'était football sans VAR, c'était football sans les yeux.
Ouais.
Oui, là, mais le problème, Stéphane, c'est que dans un football sans VAR, ce qui s'est passé hier à Kolasinac, en fait, ça fait débat deux secondes.
Football sans VAR, j'en parle même pas. Ça ferait le même débat.
Sauf que là, ça me fait juste rigoler.
T'aurais vu les ralentis, t'aurais hurlé. Évidemment.
Oui, et puis après.
Bah là, ils les ont vu, donc.
Bien sûr, monsieur, tu comprends ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait le VAR rajoute à la frustration et à l'énervement.
J'ai vu ça, j'ai repensé à la pub Burger King.
C'est le genre
de. Quand les mecs, ils regardent pas parce qu'ils sont en train de se bouffer.
C'est le genre d'injustice qui devrait plus exister, ça c'est sûr, c'est incompréhensible.
Voilà, et puis
il lui a nettoyé la cheville.
À ma vie, qui appartient toujours à Marseille, était en prêt à Rétafé en veut plus. Et hop, il atterrit à Brest. Pourquoi? Parce qu'Eric Roy le connaît de Nice.
Il y a plus grand monde qui veut à ma vie.
Et Marseille qui est encore en train de bouger au niveau mercato. Hein. Vous avez suivi.
Ils veulent un attaquant.
Ils veulent un attaquant, exactement. Donc ils sont toujours.
Ils veulent Vitinha de Braga. C'est l'info du soir.
C'est l'info du soir. Un homonyme Vitinha, c'est pas Vitinha de Paris, c'est un attaquant de Braga. Que l'autre
Pablo Longoria jusqu'à mardi soir. Il va taffer.
Et puis demain, demain et cette semaine, il va y avoir des infos fêlées à nouveau parce que demain audit,
rapport, l'audit
voilà, est remis, je le rappelle, à Noël Le Graët. Et la tendance du soir avec nos reporters qui suivent la Fédé, ils nous font savoir ce soir que le départ semble vraiment se profiler pour Le Graët.
Ah bah disons, quelle info. Voilà. Bah, évidemment, le rapport est absolument désastreux, accablant.
Plus d'infos sur RMC.
Moi désormais, Le Graët, pour moi, c'est fini, c'est rangé, au revoir tout le monde. Moi, c'est le COMEX. Je veux voir la gueule de ces gens-là. Je veux que ces gens-là me disent comment vous avez pu couvrir et comment vous avez pu dire que Le Graët était clean. Je veux qu'Olas me réponde à cette question. Je veux que ton ami Keller réponde à cette question. Après, il y a ceux qui sont commencés à se retourner, donc Riera, quoi, qui finalement s'est décidé enfin à parler un peu. Celle de Metz, là, comment elle s'appelle, Schroub, qui était soi-disant la plus courageuse, prompte à parler, on l'a toujours pas entendue. Diallo qui veut tellement la place qu'il ne moufte pas, et Sanjak qui attend en embuscade lui aussi la place, qui ne moufte pas. Mais lui, il parlait avant. Lui, avant, il savait toutes les histoires sur le Gret. Il est balancé en off. Après, il s'est foutu sur sa liste pour avoir la place au Comex. Et pendant qu'il était au Comex, il disait rien sur le Gret. Donc moi, maintenant, c'est ces gens-là que je veux entendre.
Viser le coup
d'après, parce que le Gret, c'est fini. Le Gret, c'est terminé. On sait que c'est cramé. Moi, c'est le Comex entier que je veux voir sortir.